Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International, l'actualité du jeudi diverse et variée, plein de choses à commenter, bref, pas le temps de niaiser, juste rappeler que la dame, oui, la dame rentrera lundi, pas la peine de vous agacer ou de vous impatienter sur les réseaux sociaux, on va la libérer. L'actualité, c'est par exemple Carlo Ancelotti à Naples, lui le Milanais, l'habitué du top européen, le voilà chez le vice-champion, son cinquième club en Italie, surprenant. Ou pas, tout comme cet intérêt supposé, en tout cas, bien que démenti, de Nice pour Patrick Vieira, l'ex-international, champion du monde et d'Europe avec la France, entraîneur du New York City FC, a-t-il déjà l'étoffe, l'expérience, serait-ce une bonne idée ou bien pas? Dominique Sévrac, on vous le demande, c'est une bonne idée ou pas? Bonjour.
Très bonne idée, salutations Olivier.
Quitte à se demander des trucs, eh bien demandons-nous aussi ce qu'Andrés Iniesta va faire au Japon, à part prendre des sous, beaucoup, beaucoup de sous. Et le spécialiste du foot et de la culture au pays du soleil levant, mesdames, messieurs, ici c'est Philippe Doucet.
Ah bon?
Ça, c'est décidé.
Mais c'est une bonne idée en tout cas.
Autre fait d'actualité, hier, le sérieux coup de main rendu par Toulouse au football français. 3-0 face à Ajaccio, en barrage aller d'accession à la Ligue 1 ou de maintien pour les Toulousains. C'est bien parti pour... Et mon petit doigt me dit que cela en soulage plus d'un, toute la France en fait, sauf le Corse, la Corse. Et peut-être Étienne Moati avec un nom pareil, ce gars-là doit bien avoir des accointances avec le fromage de brebis et le porc noir.
Je ne suis pas persuadé, mais en revanche, je vous confirme qu'à la Ligue, on est plutôt rassuré après le match aller, oui.
C'est pour ça, entre autres, que vous êtes là. Au menu également, cette petite affiche, là, samedi, du côté de Kiev. On me dit dans l'oreillette d'insister sur ce match entre le Real Madrid et une équipe anglaise, Liverpool. Les Reds, justement, peuvent-ils le faire? La bande de Klopp emmenée par Mohamed Salah peut-elle aller chercher le double tenant du titre madrilène? On a le plateau pour en parler, envisager cette finale de Ligue des Champions qui fait tant saliver à juste titre. Et pour parler de tout ça, eh bien on a 50 minutes les enfants, à peine. Pierre-Olivier Guérin vous a mis en haleine sur les réseaux sociaux. Guillaume Ploquin est prêt à orchestrer Radio Foot. On peut y aller. Mais d'abord, messieurs, puisque je vous ai sous la main, que vous êtes aussi méchants que compétents, je ne résiste pas à l'idée d'un petit tour de table sur le cas Rabiot. Votre avis à chacun sur le principe, il a fait une grosse bêtise ou une grosse bêtise, Dominique Sévrac?
Il a fait une grosse bêtise. Voilà, on ne refuse pas une sélection, ça va le poursuivre, mais ça va pas non plus le poursuivre jusqu'à oublier que c'est un garçon talentueux, qu'il répond aux exigences du haut niveau en club. Voilà, ça ne va pas boucher sa carrière, par exemple au Paris Saint-Germain ou ailleurs s'il change, parce que vous savez qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2019, et donc il y a des petites frictions avec le Paris Saint-Germain pour re-signer, parce que Paris voudrait le garder, c'est un produit du club. Donc voilà, c'est une erreur à l'image du joueur et de la personnalité d'Rabiot qui est une tête brûlée.
C'est pas mal de se dire qu'il aura du temps libre et qu'il sera pas sélectionnable a priori quand on renégocie un contrat. Le club doit se dire.
Oui, il a du temps.
Étienne Moati.
Oui, je suis d'accord qu'avec une partie de l'analyse de Dominique, ça arrive souvent d'ailleurs.
La première, la deuxième. Mais,
non, sur la suite de la carrière de Rabiot au Paris Saint-Germain, Dominique dit que ça gêne absolument pas donc la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain. J'en suis pas aussi persuadé que ça parce que il est aujourd'hui donc dans une période où il essaie de négocier une revalorisation pour une prolongation. Avec ce qui s'est passé là, on peut un peu plus. Imaginez que le Paris Saint-Germain donc choisisse et que lui aussi choisit de s'exiler et Paris Saint-Germain de vendre finalement Adrien Rabiot. Je pense que la fin de saison, enfin le mercato de Rabiot va être un peu plus compliqué que Dominique le pense.
Alors Étienne ne lit pas son journal puisque Nasser Al-Khelaifi a dit dans l'équipe samedi que Rabiot ne partirait pas.
Oui, enfin, il n'y avait pas encore l'affaire qui vient de démarrer, c'est bien ça le problème. Rabiot sur tous les stades de Ligue 1, donc la saison prochaine avec Paris, ça peut aussi être un tout petit peu compliqué pour lui.
Philippe Doucet.
Au niveau image, indiscutablement, ça aura beaucoup d'impact. Là, je rejoins Étienne tout à fait.
La grosse bêtise, tout le monde est unanime, c'est a priori une grosse bêtise.
Moi, je pense qu'effectivement, il manquait plus qu'il annonce sa retraite internationale, ce qui à 23 ans aurait été quand même le fun du fun. Et là, il serait rentré dans l'histoire, ça aurait été un record, ça aurait été assez passionnant, mais Il n'a pas été aussi loin, c'est dommage. Quitte à dire une connerie, autant aller au bout. Quoi.
Doit-on attendre des sanctions de la part de la Fédération française de foot? On rappelle qu'il y a eu des précédents, Cantona, Anelka, il n'y avait pas vraiment eu de sanctions
à l'époque. Ça n'a pas été le choix qui a été fait pour l'instant par Didier Deschamps et par Noël Le Graët, le président de la Fédération. Moi, je pense que c'est plutôt une erreur, parce que même s'il ne s'agit pas de condamner ce jeune joueur trop longtemps, mais marquer le coup de manière formelle me paraît nécessaire, parce que c'est quand même quelque chose de grave qu'a fait Adrien Rabiot, et de formaliser donc dans les faits le fait qu'on ne peut pas refuser une sélection, moi ça me semble plutôt nécessaire.
Je nuancerais quand même, parce qu'il y avait 11 réservistes. On peut pas appeler ça une sélection. C'est-à-dire, il est pas sélectionné. Il est sélectionné parmi les réservistes et il y en a 11. Donc, je nuancerais quand même en disant, c'est pas exactement pareil qu'un refus de sélection.
Je suis pas d'accord avec cette analyse. Pour moi, c'est quasiment la même chose qu'un refus de sélection, puisque il a été appelé par Didier Deschamps. La liste, de manière définitive, n'est que le 4 juin. Elle n'a pas encore été faite par la Fédération française de football.
3 plus 11,
la France et l'équipe de France.
Il y avait une feuille de route à suivre.
Peut avoir besoin, d'Adrien Rabiot, c'est arrivé donc avant l'Euro qu'il y ait une kyrielle de blessés, et on était bien content de rappeler
les
réservistes.
C'est arrivé 5 fois sur 15 réservistes depuis l'ère des champs. 5 fois il y a eu besoin de remplacer.
Moi je dis pas qu'il faut sanctionner très sévèrement ce qu'a fait Adrien Rabiot, mais je pense qu'il faut marquer le coup de manière formelle.
Etienne a raison sur le principe, c'est une sorte de refus de sélection. Le problème, c'est qu'un bon avocat, il en a un très bon, pourrait faire sauter ça si par exemple il est sanctionné, parce que c'est pas vrai.
L'étape suivante pour Adrien Rabiot, c'est d'attaquer la Fédération française de football.
Il est capable de tout, tu l'as vu en écrivant un email qui se finit par j'espère que vous en prendrez bonne note, quoi.
Ouais. C'est quand même, un profond manque de respect.
C'est quand même hallucinant, quoi. Ça commence par monsieur le sélectionneur, ça finit par merci d'en prendre bonne note. C'est quand même, assez hallucinant. Donc, même si c'est un refus de sélection sur le principe, un avocat pourrait faire sauter ça, malheureusement.
Cette affaire nous a au moins permis une chose, c'est de bien rire avec Franck Ribéry, parce que le plus drôle dans cette affaire, c'est quand même Franck Ribéry. On rappelle, pour ceux qui ont Twitter, j'ai plus en tête, mais en gros, il postule, il est en vacances en Italie et il dit, moi je suis prêt.
Il postulait aussi avec sa fin de saison avec le Bayern, parce que finalement, aujourd'hui on rigole, évidemment,
il est
premier
compétitif
avec son
35 ans. Hein.
Mais quand on voit ce qu'il a fait avec le Bayern en fin de saison, franchement, il avait sa place dans la liste.
Il y avait longtemps qu'il avait pas été aussi drôle. Là, franchement, la petite vidéo aussi, où il jongle et où il s'en va, il dit je suis prêt.
L'autre écueil de la sanction, Olivier, c'est que Naïsna, on enlève Anelka qui a pris 18 matchs pour avoir insulté son sélectionneur, c'est que celui qui a pris le plus, c'est 5 matchs de suspension. Donc si vous mettez des matchs de suspension à Rabiot, ils auront lieu. Deschamps va acter son absence après la Coupe du Monde sans le dire. Il dira c'est un choix sportif. Il va manquer plusieurs sélections à Rabiot comme ça, jusqu'à ce qu'un jour Deschamps lui pardonne et le rappelle.
Ou que Deschamps en ait besoin, parce qu'il est d'abord pragmatique.
Parce qu'il est pragmatique. Voilà. Mais voilà, tout l'allant, je crois.
On espère, moi en tout cas le premier, j'espère que Adrien Rabiot ne sera pas rappelé tout simplement parce que Deschamps en a besoin. Si Adrien Rabiot doit être rappelé en équipe de France, ça passera d'abord par une forme d'excuse qui au sélectionneur, à la fédération aussi, et puis à l'ensemble du public du foot, parce que quand on a 23 ans, qu'on a la chance d'être rappelé en équipe de France, même en position de réserviste, pour aller à la Coupe du Monde,
on est bien d'accord.
Voilà, et c'est quand même grave.
L'important, c'est le drapeau. Ancelotti, on va passer une gamme au-dessus, c'est quand même autre chose.
Qui a lancé Rabiot première au PSG.
Au PSG, lors de son passage 2012-2013.
Il avait déjà joué.
Direction l'Italie, pour parler donc de Carlo Ancelotti et de son nouveau défi, le Napoli, encore une fois sur le podium du Calcio, mais jamais premier, en fait plus jamais premier depuis 1990. J'ai regardé 3 fois deuxième en 2013, 2016, 2018, 3 fois troisième en 2011, 2014, 2017. C'est un sacré challenge pour le mystère. C'est presque même un peu étonnant de retrouver Ancelotti à Naples, ou ça vous étonne pas, peut-être.
Il n'arrive pas dans un champ de ruines non plus, ça s'est joué à peu.
Deux, trois journées de la fin.
La lutte avec la Juventus Turin, ils ont un petit peu balancé la Ligue Europa pour se concentrer sur le championnat, et je pense justement que Carlo, il peut amener ça avec son expérience, c'est un très très grand entraîneur. Je pense, entre parenthèses, que s'il était resté à Paris 2-3 saisons de plus, le club aurait grandi, mais de manière très très importante sous sa férule, parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît qu'est-ce que le monde du du haut niveau, il est fait pour ça.
Tu peux faire Ancelotti à Unai Emery, c'est ça?
Ah, par exemple, oui. Mais bah, là, on est avec un entraîneur, quoi.
Il a un vrai entraîneur. Il a un meilleur vélo.
Du haut niveau, mais
il a un meilleur vélo.
Oui, bien sûr. Non, mais Carlos, c'est vraiment un entraîneur de haut niveau. Lui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute sur ses aptitudes du haut niveau. Il a fréquenté des clubs comme l'AC Milan, comme Chelsea, comme le Paris Saint-Germain, comme le Real Madrid. Il amène la décima. Donc voilà, lui, il a l'ADN des grands clubs.
Il a l'ADN des grands clubs, il peut réussir. C'est vrai que Naples rêve de ce titre depuis 1990. Alors, il y a des saisons, on l'a dit. Ils sont sur le podium régulièrement depuis 7 ou 8 ans, mais il y a toujours un moment où ça coince et puis ça vient pas. Pourtant, c'est la passion même du foot en Italie, Naples.
Je me plaçais pas l'analyse est évidemment intéressante parce que faire gagner le Napoli, ce serait une preuve ultime du talent de Carlo Ancelotti que de toute façon, personne ne remet en cause. Sauf que, quelque part, je trouve que ce transfert, enfin cette arrivée à Naples est quand même une demi-surprise dans le sens où, en termes de renom, ça remet en cause le Carlo Ancelotti destiné aux très très grands clubs.
Années, c'était Chelsea, c'était le Bayern.
Ouais, c'était que du gros.
Ça a été
le
meilleur AC de la grande époque.
Je suis surpris. Je pense que la dernière année au Bayern et la façon dont il a été évincé
en septembre
a sans doute participé un peu à cette, je vais pas parler de déconsidération, mais enfin cette petite baisse dans l'esprit des grands clubs quant à la cote de Carlo Ancelotti. Donc je pense que pour moi c'est une vraie surprise de voir Ancelotti arriver au Napoli, même si d'un point de vue sportif ce sera sûrement d'un très grand intérêt. Il succède à Mauricio Sarri, qui était très intéressant également. Le Napoli est vraiment une équipe très intéressante.
Ouais, mais c'est ça qui m'a surpris.
Battre la Juve, ce serait le top. Mais c'est surprenant, quand même.
Moi, c'est ça qui m'a surpris. C'est vrai que je suis d'accord avec Philippe, il y a une toute petite décote d'Ancelotti, sinon il aurait trouvé un plus grand club. Et ce qui me surprend dans son recrutement par le Napoli, c'est qu'évidemment, c'est un grand entraîneur, Ancelotti. Mais à Naples, il y avait un vrai projet de jeu extrêmement différent de ce que fait Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est beaucoup de pragmatisme, une équipe bien en place.
Il peut faire plein de choses.
Oui, il peut faire plein de choses, mais ce qui a été fait à Naples depuis un moment est extrêmement intéressant. Je veux dire que Ancelotti, c'est plus de pragmatisme, plus de jeu un petit peu direct. Et je suis surpris de ce choix-là qui est fait par Naples aussi.
Oui, mais dans les grands clubs qui se libéraient, il y avait le Paris Saint-Germain, et c'est peut-être pas le moment pour qu'il revienne.
T'as pas autant de poids que ça au club, alors, parce que tu aurais pu le faire revenir.
J'aurais voulu, mais pourtant,
vous avez des amis. Beaucoup de gens auraient voulu qu'il revienne.
Ouais, il y a le Arsenal.
Les joueurs, pour commencer.
Arsenal, c'est un grand club, mais pas une grande équipe en ce moment, parce que, en plus, ils jouent pas la Ligue des Champions.
Mais c'est un grand club.
Donc, il y a pas,
Il y a Chelsea, non, il y avait du monde.
Oui, mais Chelsea, bon, il a donné.
Il est déjà passé.
La Juve va pas changer de club, Manchester change pas d'entraîneur. Donc c'était compliqué moi je trouve pas qu'il y ait une décote dans le Chelotti d'aller à Naples, quoi.
Il a été champion partout, hein, sauf à Madrid, mais enfin à Madrid avec le Real il a gagné la fameuse décima, la dixième C1. En tant qu'entraîneur, c'est quand même 3 titres en Ligue des Champions, hein, 2 avec Milan et 1 avec le Real. C'est aussi 2 titres à titre de joueur, au titre de joueur en 89 et 90. C'est un des plus formidables palmarès. C'est un monstre. Finalement, un petit peu, faut pas manquer de respect à Naples. C'est vrai, si Naples n'est plus champion, Naples fait partie des grands d'Italie. Et bon, voilà, ça peine un peu. Naples n'a jamais été plus loin qu'un huitième de finale de Ligue des Champions.
Et surtout, une des forces d'Ancelotti, c'est sa capacité à gérer des stars. On a vu que, par exemple, Unai Emery, là, je rejoins Dominique, n'y arrivait pas vraiment au Paris Saint-Germain. Il y avait une vraie difficulté d'autorité, donc, vis-à-vis des très grands joueurs. Et Ancelotti, sa force, c'est sa capacité, sa rondeur, sa capacité, donc, à gérer les égos, à être lui-même un ancien grand joueur avec un caractère extrêmement convivial, les joueurs l'adorent en général et les stars l'aiment en particulier. Donc c'est aussi ce qui fait une de ses forces pour aller dans des grands clubs. À Naples, l'effectif, il n'est pas composé de stars. Donc la plus-value Ancelotti de ce point de vue-là, je trouve qu'elle est moins importante.
Et le président, M. De Laurentiis, c'est un peu fou parfois. Donc ça, Carlo aussi, il a vu avec Abramovic ou avec le Qatar, deux actionnaires compliqués, que parfois c'était bien aussi d'être dans des clubs un peu stables.
Voilà pour Carlo Ancelotti, ce sera donc à suivre en novembre, on espère qu'il y sera encore, en août avec la reprise du championnat d'Italie. Parlons d'un autre entraîneur qui lui a toute sa carrière à faire, qui a été un grand joueur lui aussi, Patrick Vieira. Alors entre les deux, il n'y a qu'un pas à faire, mais c'est quand même un pas de géant, hein. On l'a un temps annoncé à Arsenal, ces derniers jours c'était à Nice. Que vous inspire ces bruits autour de Patrick Vieira, dont le CV en tant qu'entraîneur est un peu faiblard quand même, hein. Il est entraîneur du New York City FC depuis 2 saisons, 2 quarts de finale en play-off, en phase finale.
Oui, mais
en général, il n'a pas brillé.
Si on compare à d'autres garçons de France 98 qui ont été Laurent Blanc ou Zidane ou autres, Je dirais qu'il est, il est plus avancé, parce que lui a déjà entraîné. Il a entraîné des équipes de jeunes.
Il peut même y ajouter Didier Deschamps qui avait pris directement Monaco.
Didier Deschamps. Donc il est plus avancé. Il a fait des équipes de jeunes à Manchester City. Il a été dans l'entourage immédiat du club. Il a fait 2 saisons complètes, peut-être un petit peu plus d'ailleurs, 2 saisons et demie, je crois, avec New York. Donc quelque part, il est plus avancé. Maintenant, ça ne suffit pas, effectivement, visiblement, à convaincre des top clubs de le mettre en.
Il est dans la liste. Il est dans la shortlist en général. On l'annonce là.
Mais il bascule bien. C'est bien de commencer en Ligue 1. C'est bien de commencer à Nice, qui après Puel et Favre, qui ont tous les deux réussi. Voilà, c'est bien de débuter pas loin de chez lui à Cannes. Franchement, moi, je vois que des avantages. La Ligue 1, parfois, est un peu frileuse. Et à Nice, il y a souvent des idées originales. Et ça me plairait de voir Patrick Vieira en Ligue 1. Pour commencer, c'est bien, c'est sans pression. Zidane, il a hésité entre commencer à Bordeaux et aller directement au Real Madrid. Je crois que les faits lui ont donné raison, mais parce que Zidane, c'est un autre joueur, une autre aura, un autre mythe que Patrick Vieira, qui lui n'est pas un mythe, mais il est champion du monde.
Le petit bémol pour Nice, c'est qu'il va voir, falloir voir ce que va être l'OGC Nice la saison prochaine, parce que donc ils vont perdre Balotelli, ils vont perdre Pléa. Ils vont perdre sûrement aussi Seri.
Oui, qui était resté cette saison, mais...
Quel effectif va avoir ? Oui, sans doute, mais...
C'est leur genre.
Il y a eu 2 entraîneurs qui sont passés, qui ont plutôt bien réussi à Nice. Ça va être quand même compliqué pour Vieira de faire mieux que Lucien Favre.
C'est pas le plus facile. Effectivement, contrairement à ce que dit Dominique, je pense pas que ce soit si facile que ça. Parce que je pense que Nice, le président River, depuis quelques années, aime bien faire des coups d'éclat. Je pense que Vieira est un coup d'éclat. Mais ça veut dire que si vous avez Vieira sur le banc, vous n'aurez peut-être pas parallèlement un grand joueur de équivalent de Balotelli, Ben Arfa, ou enfin les gros coups qu'il a su faire ces 2 dernières années. Donc du coup, la mission de Vieira sera peut-être pas forcément
Balotelli, c'était censé pas marcher, ça a marché.
Oui, est-ce absolument. Qu'il peut attirer on rappelle qu'il a 41 ans, c'est donc très jeune. Il a été 3 fois champion d'Angleterre, 5 fois champion d'Italie, ça c'est en club, et évidemment champion du monde, champion d'Europe. Est-ce qu'il a lui aussi de l'aura suffisante pour éventuellement attirer
Je crois pas, mais je pense qu'il peut avoir un œil différent. Peut-être qu'il connaît des joueurs en Angleterre ou ailleurs qu'on ne connaît pas bien, qu'il peut révéler, qu'il peut faire grandir.
Des prêts. Ouais, Manchester City a environ 140 joueurs dans son effectif.
Je pense que si on lui dit qu'il y a des possibilités, il dira non.
Oui, mais Manchester City a 140 joueurs dans son effectif, mais aussi 3 ou 4 clubs dans son effectif aussi. À qui il prête déjà ses joueurs.
Je parle de tous.
On est aux antipodes de ce qu'il fait aux États-Unis. La MLS, c'est quand même une division mineure dans le football d'aujourd'hui.
Il sera beaucoup plus exposé, mais à un moment donné, il faut se lancer aussi.
Ouais, le niveau d'un club comme Nice, je pense, pour le coup, convient relativement bien. Donc, il faut bien démarrer quelque part. Il va pas non plus démarrer avec une division d'honneur, Patrick Vieira. Donc, je pense que, comme l'a dit Philippe, il a quand même fait un petit peu ses classes. Si on vous confie à un club qui est aujourd'hui un club moyen plus du championnat de France, je pense que c'est pas mal pour démarrer.
Il y avait un doute sur Laurent Blanc au début, hein. Il avait failli signer.
Même 2 ou 3. À Nantes. Il a eu beaucoup de mal à trouver un club.
Il a eu beaucoup de mal. Et finalement, Bordeaux a pris un peu des risques avec Jean-Louis Triot et M6. Et puis, il a fait 2, 1 et 6e. Donc, il y a un titre au milieu, champion de France. Pas mal en Ligue des Champions. Il est jusqu'en quart de finale contre Monaco, je crois.
Contre Lyon.
Donc, c'est pas mal quand même.
Didier Deschamps, réussit
en finale de la Ligue des Champions.
Non, finale de l'Euro, première année catastrophique. Catastrophique. Il n'est pas descendu, mais il a souffert énormément, Didier Deschamps.
À Monaco ?
Oui, la première saison, mais dès la deuxième, effectivement, il a mis sa patte, il s'est installé. C'est pas facile de débuter la carrière d'entraîneur et
on voit, surtout quand on a le passé, qu'on s'est joué.
Mais Diomède étant dans les sections de jeunes, ça se passe bien. Bogossian est adjoint en équipe de France, c'est bien passé. Il n'y a pas, pour l'instant, la génération 98, ceux qu'on fait le choix.
Voilà, là, c'est des exemples que tu prends qui sont quand même relativement étonnants. Bogossian, on ne peut pas dire qu'il ait fait une carrière d'entraîneur de football de très très haut niveau.
C'est pas mal du tout, quand même.
Oui, il l'a été, et c'était pas l'adjoint numéro 1. Et aujourd'hui, donc, il n'a pas une grande équipe à entraîner. Donc, Bernard Diomède, on est très content pour lui, mais on ne peut pas dire non plus qu'il fasse une carrière d'entraîneur à la Zidane pour le moment.
Non, mais c'est des expériences qui sont intéressantes et où il se passe des choses.
Naissantes, on va dire.
Il y en a qui vendent des piscines dans les champions du monde. Voilà, donc tout le monde ne fait pas ça, quoi.
Stéphane Guivarch. A dénommé Guivarch, hein, donc ah on oui, rappelle qu'il est champion du monde.
Ça n'a rien de péjoratif.
Non, mais... Eh ben pourquoi pas.
Ils vont peut-être beaucoup mieux des piscines que certains entraînent.
Que marquer des buts en Coupe du Monde, tu veux dire.
Oh, tout de suite.
On parlait de grands joueurs à la retraite. Parlons d'un grand joueur qui n'est pas encore à la retraite, qui deviendra peut-être entraîneur. On peut presque miser une pièce là-dessus, d'ailleurs, pour que nous voyions un jour Andrés Iniesta diriger une équipe sur un banc, parce qu'il en a vraiment l'étoffe, le profil. En tout cas, à 34 ans, 32 trophées, après 22 saisons passées au Barça, le voilà qui annonce aujourd'hui donc qu'il part au Japon, au Vissel Kobe. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je dois dire le salaire tout de suite, 30 millions de dollars par an, dit-on.
Ah voilà, ah, parce oui. que bon, je comprends pas pourquoi tout ces joueurs-là qui ont été des légendes ont besoin de continuer. Bon, bah là, vous avez donné la raison, quoi.
Ouais, mais a-t-il besoin encore? Oui, peut-être qu'on en a jamais assez.
Je connais pas son train de vie.
On n'est pas à ce niveau-là.
Moi, je dirais pas qu'il continue.
C'est pas l'argent. Il faut pas dire que c'est l'argent qui fait partir Andrés Iniesta, parce qu'il avait un contrat à vie à Barcelone. Il pouvait encore faire une ou deux saisons avec un niveau de rémunération extrêmement élevé à Barcelone. Je pense que lui-même a conscience que peut-être maintenant il va commencer un petit peu à décliner et que c'est mieux de rester donc sur l'image qu'il a donnée donc à ce club-là et en effet de continuer quand même à jouer et à gagner beaucoup d'argent.
Il peut y avoir une mission dans sa tête. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de la Chine. Dieu sait ce qu'il en parle. De la Chine ces dernières années.
Vous voulez dire une mission d'évangélisation au Japon pour,
Ben, on se souvient dans les années 90 de Zico, de Gary Lineker, mais ça n'avait pas vraiment marché.
Non,
il en revient 20 ans après.
J'ai pas la sensation que ce soit ça. Non, de même. Alors, Xavi, peut-être au Qatar, a une mission un peu différente parce qu'il y a une mission en même temps un peu de communication.
Coupe du Monde 2022.
On se demande s'il va pas être sélectionné en 2022. Enfin, il y a tout un truc. Iniesta, je suis pas bien sûr. J'ai l'impression qu'il voulait continuer à jouer au foot. Je pense que je rejoins Étienne là-dessus. Il veut continuer à jouer au foot, mais il veut pas s'abaisser en Europe. Il veut pas être en Europe quelque part dans un championnat visible où il va gentiment décliner.
Il y a moins d'argent après.
Oui, il y a pas d'argent aux États-Unis. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est la vérité en foot en tout cas. Mais du coup, il choisit le Japon. Bon, ça peut surprendre, mais je pense qu'il aime profondément le foot. Tout simplement.
C'est un coup pour essayer
de... C'est mieux le foot que d'aller jouer au Japon?
Oui, je pense qu'il va toujours trouver son plaisir à jouer au foot.
Ouais. Ouais. Moi, je trouve pas ça terrible. Mais
c'est un coup pour essayer de développer un peu, de passionner un peu plus le Japon pour le foot.
Oui, ça va mettre un peu la lumière dessus. Il a des affaires, il a du vin donc qui développe. Ouais, je pense qu'il pense aussi à cet aspect-là et je suis persuadé que dans le contrat que Iniesta donc a signé avec son club japonais, parce qu'il en était déjà question quand on parlait de lui pour la Chine, il y a aussi des éléments donc de sa reconversion et de ses affaires aussi à lui. Et quand on sait ce que fait Iniesta, il intéresse aussi beaucoup sa région, son village, etc. C'est quelqu'un, allez, on va dire, d'extrêmement généreux et extrêmement apprécié. Donc je pense qu'il y a tout cet aspect-là qui doit compter aussi dans le choix qu'il a fait.
Et puis c'est peut-être plus facile de s'adapter au Japon qu'à la Chine. On voit que beaucoup de joueurs
ils ont la même discrétion que lui. Que lui au Japon. Donc de ce point de vue-là, ça peut lui convenir.
Oui, la Chine est un marché devenu très complexe. Il est possible aussi que ce soit la complexité, les complexités administratives qui aient un peu bloqué son départ en Chine, parce qu'il était véritablement prévu son départ en Chine. On sait qu'en ce moment, il y a des tas de... Dès qu'un joueur très important arrive, l'État réclame la moitié, réclame le double,
on
si j'ose dire.
D'investir.
De payer le double.
Au moins autant que le transfert dans les écoles de foot.
Et donc, tout ça fait l'objet à chaque fois de négociations. Et ça, comme par hasard, tous les derniers grands transferts en Chine sont très complexes et prennent un temps fou. Parce que tout d'un coup, j'imagine qu'en fait, les clubs négocient avec l'État en disant, ouais, quand même, pourriez me laisser un peu, quoi, parce que si je prends un joueur 40 millions d'euros et qu'il faut en donner 40 à l'État, si je vous ai ajouté 20 millions de salaire et qu'il faut en donner 20 à l'État, ça commence à faire beaucoup, l'addition est lourde.
On rappelle que le Japon est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde.
Et vraiment pas la Chine.
Il a changé de sélectionneur.
Très très loin et qui a eu la très bonne idée de virer son sélectionneur mi-avril. On aura l'occasion d'en reparler parce que Jackie Bonnevet est un habitué de Radio Foot. Il attend que les choses se passent parce qu'à l'approche de la Coupe du Monde, c'est dur. Il était l'adjoint de Vahid et il est venu plusieurs fois nous en parler. Vahid Ali le dit, donc remercié parce qu'on lui reproche entre autres ses coups de gueule. On a vu aujourd'hui qu'il a attaqué en justice. Il réclame 1 euro symbolique à la fédération japonaise. Pour laver son honneur, il n'admet pas qu'on puisse dire qu'il avait de mauvais rapports avec les joueurs. Et pourtant, c'est ce qu'on a cru comprendre. Le Japon, c'est dans le groupe, dans un groupe qu'on suivra sur RFI, évidemment. Sénégal, Colombie et Pologne. Allez, on va passer au barrage. On va revenir en France.
Ouais.
Et on va parler de ce qui nous occupe bien depuis 5 ou 6 jours maintenant, presque une semaine, puisque ça a démarré vendredi, cette affaire. la Ligue 1, la Ligue 2 française, donc pas toujours au niveau sur le terrain, bien plus côté polémique à 2,50 francs ou 2 €. Donc hier, huis clos à Montpellier, donc sur terrain neutre, Ajaccio recevait Toulouse dans un match aller souvent décrié ces derniers jours. Résultat, la cata hein, pour les Corses, 3-0, le gardien Leica blessé, mais aussi sans doute le capitaine Ghislain Gimbert. Toulouse recevra dimanche les Corses pour enfoncer le clou. À part les Corses, on a l'impression que tout le monde est content.
La Ligue de football professionnel en tout cas, parce que après tout ce qui s'est passé, je peux vous dire qu'il y avait une grande inquiétude d'imaginer qu'Ajaccio puisse accéder en Ligue 1. Ça aurait évidemment relancé toutes les polémiques, ça aurait relancé très très fort l'amertume des Havrais, ça aurait inquiété tous les autres clubs aussi, parce que avec les incidents qu'il y a eu en Corse, personne n'aurait eu envie d'aller jouer là-bas. Donc ce qui s'est passé hier soir dans un stade désert, qui était d'une tristesse, un match affligeant, et ben finalement, en tout cas, au moins ça rassure le foot français. Et
on avait même l'impression qu'Olivier Pantaloni, l'entraîneur, n'était pas du tout en tribune, lui qui est suspendu à un titre conservatoire. On l'entendait tellement, on le voyait tellement, il était quasiment sur le banc.
C'est comme si le piège était refermé sur les Corses après les incidents de dimanche contre le Havre, un match rejoué qui devait devoir jouer vendredi. Ils ont paru vidés par tout ce qui s'était passé depuis quelques jours, toutes les polémiques, dont certaines sont purement scandaleuses, ce qu'on entend dans les tribunes d'Ajaccio sur les joueurs noirs, sur la France, sont complètement hallucinants. À la fin, c'est un petit peu, on est content parce que celui qui a fauté ou qui semble avoir fauté, je ne sais pas, il y a des commissions qui se réunissent, mais pour l'instant, il y a eu que match délocalisé et à huis clos pour Ajaccio. Ça va continuer.
Pour Léon Luciani, le président d'Ajaccio, c'est déjà le complot est là. Je vous propose de l'écouter.
J'attends la commission de discipline, j'attends qu'elle retrouve un peu ses esprits, j'attends que les choses se fassent conformément à ce qui s'est passé, conformément aux images, puisque les images vont attester des faits, et qu'à partir de là, cette campagne et ce qu'on a vécu, c'est quelque chose de très très lourd à porter, parce que en même temps, on nous a fait passer pour ce qu'on n'est pas, on a joué 19 matchs en Ligue 2, il n'y a jamais eu un seul souci, et on nous a décrit comme une terre de non-droit, comme une terre d'excès, et ça, je l'accepte toujours pas, parce que c'est en dehors du football que ça s'est joué.
C'est une terre de non-droit, c'est une terre d'excès, on l'a tous vu. Il est consternant, ce président.
Il y a une chose juste dans ce qu'il dit, et qui rend d'ailleurs le comportement.
Il y a eu 19 matchs qui se sont bien passés.
Absolument. Ouais. Cette année, il n'y a pas eu d'incident à Ajaccio, il y a eu un comportement normal. Ils ont perdu 2 ou 3 fois à domicile, 3 fois, je crois.
Peut-être parce que tout le monde s'en tape des matchs à Ajaccio en Ligue 2.
Non, 3 équipes ont gagné là-bas. Ah oui, vous voulez dire dans
le niveau
média
et autres.
Non, mais il
n'y
a pas eu d'incident. Non, mais il n'y a pas eu d'incident. Il y a même, ça manquait même un peu de passion et autres.
C'est pourtant tellement sympa d'aller à Ajaccio.
Oui, bien sûr, et c'est une ville magnifique et toujours des moments très agréables. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur esprit pour vouloir absolument la jouer à l'ancienne, si j'ose dire. Parce que vraiment, c'est complètement aberrant ce qu'on a vu le vendredi.
Il parle des images, là, mais les
images. Dimanche. Les images, elles parlent.
Oui,
Ajaccio aurait pu avoir 5 joueurs suspendus, peut-être 6, 7, j'en sais rien, si on va au bout.
Parce que les images, elles montrent Olivier Pantaloni, l'entraîneur, sur le terrain au moment des tirs au but.
Mais c'est surtout ce que la députée a rapporté, la députée de Seine-Maritime qui était dans la tribune.
Elle va peut-être pas souvent dans les tribunes, elle entend pas souvent peut-être les publics.
Il y a plein de choses qui choquent partout. Moi, j'entends pas négro de merde dans les stades français. Moi, j'entends pas français de merde, négro de merde, ramasseur de coton. Ce sont pas des expressions que j'ai l'habitude d'entendre. Et je vais dans des stades, donc. Bon, peut-être que je suis pas.
Tribune de presse, non.
Mais pas forcément qu'en tribune de presse.
Et sur le fait d'être complètement rassuré, un bémol quand même, très important. C'est, imaginons que Lille, qui est un club en danger, danger DNCG,
oui, bien
danger
sûr.
Financier,
oui.
Imaginez qu'ils descendent, ce serait Ajaccio, qui naturellement sera
troisième de Ligue 2.
C'est peut-être de barragiste, c'est l'équipe normalement qui est appelée.
C'est peut-être une bonne nouvelle pour Lille, parce que finalement, on peut imaginer, quand on va étudier le dossier lillois devant la DNCG, on va se dire, mais attendez, si jamais on les rétrograde, c'est donc Ajaccio, le barragiste, qui a mis le feu au football français qu'on va rattraper.
Je plaisante,
mais qu'à moitié quand même.
Il y a des règlements.
Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce que dit le président Luciani, c'est bien, mais ils ont été sanctionné uniquement après le match du dimanche. Le match du vendredi, donc les événements sont des événements extrêmement graves qui se sont passés, n'ont absolument pas impacté le club parce que on considère
que c'était en dehors du stade
et que c'était donc voilà, c'est une faute de l'État et que le club n'est pas concerné. Bon, moi je veux bien, d'accord. Maintenant les événements, ils sont vraiment à la porte du stade, ce sont quand même des supporters, en tout cas, ou des pseudo-supporters, mais c'est quand même des gens qui étaient là pour venir au stade, qui ont empêché le bus d'arriver. Ça fait quand même beaucoup, et comme l'a dit Dominique, en plus, tout ce qui a été fait et dit et prononcé et hurlé par les spectateurs, les supporters là-bas, franchement, ça fait beaucoup. Donc pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un complot anti-Corse.
Justement, en parlant de complot, on l'a dit dans les titres, vous êtes là parce que vous êtes l'homme de ce genre de dossier à l'équipe, et notamment proche de la Ligue. La Ligue est en faillite complète, on a l'impression, dans cette affaire, dépassée totalement par l'événement.
Une très faible capacité de réaction, parce qu'il a fallu attendre plusieurs jours avant que Nathalie Bois de la Tour, la présidente de la Ligue, s'exprime.
C'est grave quand même.
S'exprime donc personnellement. Il y a eu un communiqué d'une ligne et demie, donc après le match de vendredi, c'était évidemment trop peu, très peu au regard des événements extrêmement graves qui se sont passés. C'est compliqué de diriger la Ligue de foot parce que vous êtes toujours coupable de quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est encore plus compliqué avec la direction actuelle qui est encore un petit peu de mal, je dirais, à mesurer donc les enjeux et ce que représente le football au niveau français, et d'être en capacité de réagir avec autorité. Il y a une autorité à la fédération, à la Ligue, ça manque aujourd'hui d'autorité.
Il y a parfois, pour être assez simple et concret, il y a parfois des manques dans les règlements. Et là, bah, la Ligue se retrouve devant des vides. Étienne en citait un. Ah bah, c'est à l'extérieur du stade. Donc voilà, on peut pas sanctionner le club. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, et il faut trouver vraiment des vrais subterfuges juridiques, pour arriver à sanctionner Ajaccio, ce qui aurait dû être fait vendredi. La Ligue en est incapable parce que voilà, les règlements sont écrits comme tels, et même d'après dimanche, elle a du mal aussi. Et puis après, ça c'est un bémol qu'il faut citer pour comprendre que la Ligue ne peut pas sous l'effet de l'émotion de l'opinion, dire « Oh ben on n'a qu'à les chasser, et puis ils n'ont qu'à plus jamais jouer au foot, etc. » On peut pas, la Ligue ne peut pas réagir comme ça, elle a des règles, et elle est obligée de les appliquer. Mais oui, il y a un manque évidemment d'incarnation, et d'incarnation foot, ce qui manque à la Ligue. Mais je ne sais pas si ça changerait beaucoup de choses, parce que de toute façon, l'institution est de toute façon mal aimée, quoi qu'il arrive dans ce pays et ailleurs. Il est impossible d'être populaire quand on est à la tête de la Ligue ou à la tête de la Fédé. Mais il manque un petit peu d'incarnation foot, c'est évident, dans ces dossiers-là.
On a quand même eu l'impression qu'il y avait une zone de non-droit. Pantaloni qui revient sur le terrain, le président qui est derrière le but au moment des tirs au but.
Il y a une direction bicéphale, ce qui n'aide pas forcément à l'incarnation, justement, parce qu'entre la présidente Nathalie Bois de la Tour et le directeur général exécutif Didier Quillot, il n'y a pas forcément une très grande entente. Donc, Noël Le Graët représente bien la fédération, tout le monde sait qu'il est le président de la fédération, tout le monde voit qui incarne la fédération, où est l'autorité. Autant la Ligue, on voit pas très bien où est l'autorité et qui l'incarne.
Il y a une vraie faillite, indéniable en tout cas dans cette affaire de la Ligue, du pouvoir du football français.
En tout cas, il y a un déficit d'image, parce que tout ce qui a été vu devant les caméras, et donc tout ce qui a été montré, que ce soit en France, et comme on essaie de vendre aussi notre championnat à l'étranger, je veux dire, si ces barrages qui devaient être la fin de saison avec énormément de piquants...
Quel fiasco, ces barrages.
Le piquant, il est devenu vraiment très 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 amer, quoi, pour tout le monde.
Mardi, Grenoble, Bourg-en-Bresse, barrage national, Ligue 2 à huis clos, mercredi Ajaccio-Toulouse à huis clos. Et puis, comme publicité pour le foot, il y a mieux.
Au terme d'une saison où le terrain à Lille est envahi, où le terrain Saint-Étienne est envahi, voilà, parce que Fekir monte son maillot, c'est une saison quand même.
C'est la pire saison.
Ah, franchement,
je crois pas qu'on ait vécu une pire saison.
Le retour des fumigènes, il n'y a pas eu de mort, mais le retour des fumigènes, moi j'ai connu une saison où il y a eu des morts. Le retour des fumigènes, comme jamais, on a l'impression que, dans les tribunes autour des stades.
Des blessés à Amiens, me souffle Guillaume Cloquet.
Oui, voilà, il y a une tribune qui s'effondre à Amiens-Lille, c'est insupportable.
Eh ben, on parlait de publicité pour le foot, de contre-publicité. Moi, je vous propose de faire ce qui sera sans doute la meilleure des publicités pour le foot, de parler de la finale de la Ligue des Champions. On a même prévu quelque chose avec mon ami à moi, Guillaume Ploquin.
most extraordinary finish. Andriy Shevchenko, who won the trophy from the Spark of Milan 2 years ago. And Liverpool are five-time winners.
C'est sympa cette petite musique derrière. On était en quelle année?
84. Je sais pas, quoi donc
2005.
2005,
on était en 2005. On était en 2005. C'était en 2005 au stade Atatürk à Istanbul.
J'étais bon.
Et c'est marrant, on a appris aujourd'hui que Istanbul accueillerait la finale 2020 de l'édition 2020 cette année.
Ce sera
à Kiev. Tout le monde se souvient de cette finale de 2005.
Bah, c'est l'une des plus grandes finales de l'histoire de la Ligue des Champions.
Vous vous souvenez du scénario?
Bien sûr. Oui, c'est difficile d'avoir oublié quand même.
3-0 à la mi-temps pour le Milan AC.
Extraordinaire à la mi-temps des fans anglais. Ils chantent comme jamais ils l'ont chanté.
Et qui était l'entraîneur du Milan AC?
Monsieur Carlo Ancelotti.
Décidément, elle est bien foutue cette émission. Hein.
Et monsieur Benitez. Et Rafa Benitez en face.
Liverpool revient à 3-3 en 6 minutes. 54, 56e et 60e.
Donc Vladimir Smisser qui avait joué à Bordeaux.
Oui.
Qui jouera à Bordeaux après.
Prolongation, tir au but, Shevchenko qui manque le sien pour le Milan AC. Et Liverpool qui gagne sa 5e Ligue des Champions depuis nada. Rien. Et donc Liverpool qui va défier le double tenant du titre samedi à Kiev. Tous les passionnés de foot, évidemment, n'ont qu'une hâte, c'est d'être à samedi soir. C'est quand même une sacrément belle affiche entre le club d'avant et le club de toujours. En quelque sorte, non. Ça vous va?
C'est deux mythes du football mondial et européen, ces deux équipes portées vers l'avant. Ça qui nous excite, c'est que on sent que ce sont des équipes qui acceptent le déséquilibre pour se porter vers l'avant. Avec Cristiano, Benzema, Isco répondent Salah, Firmino, Mané. Donc voilà, peut-être que les défenses vont souffrir dans ce duel. C'est ce qu'on imagine. Peut-être que ça sera un match terriblement fermé à 0-0, mais on voit pas comment, comme ça, de loin, ça peut ne pas être une finale spectaculaire.
Voilà. Est-ce que c'est un match qui peut être décevant?
Oui, il y en a toujours. Ouais. Il peut toujours y avoir une finale décevante.
Pas avec cette affiche.
On le souhaite pas. mais elle peut l'être.
Oui,
c'est quand même une finale. Liverpool part pas quand même favori. Liverpool peut aussi peut-être, pour une fois, avoir un petit peu tendance à rester un petit peu en bloc, essayer d'envoyer donc ses trois devant très vite sur des contre-attaques. Mais si elle est autant attendu cette finale, c'est cette résurrection de Liverpool, parce qu'on sent que au-delà des Espagnols et des Madrilènes, l'ensemble du football européen et quasi mondial est un petit peu aujourd'hui pour Liverpool.
Alors justement, on va parler. On est toujours, si vous nous écoutez, vous nous rejoignez avec Philippe Doucet, avec Étienne Moati et avec Dominique Sévrac. Demain, on parlera dans le Café des Sports bien plus du Real Madrid avec Rémy N'Gono. Ça, celui-là, on peut pas ne pas l'inviter quand on parle du Real. mais on lui mettra le réfé dans les pattes, ça lui fera du bien. Il y aura aussi Xavier Barret et l'anglois Bruno Constant. Nous allons nous intéresser aux Reds. Peuvent-ils le faire? Alors, je vous propose d'écouter d'abord Jürgen Klopp, Philippe.
We are not as long together
in the Cela fait peu de temps que nous sommes ensemble avec ce groupe, contrairement au Real de Madrid, qui non seulement a gagné les deux dernières éditions de la Ligue des Champions, mais ils l'ont toujours fait avec la même équipe à chaque fois, et ça n'était pas rien. Aussi, en tant que groupe, ils sont très forts, c'est un fait, c'est le foot. Mais on a notre chance, essayons de le faire, allons-y, essayons de nous frotter à un niveau peut-être trop élevé pour nous. Mais rien n'est impossible, on a fait tout ce qu'il fallait le plus souvent possible lors de la compétition, il faut juste le refaire une fois.
Il faut juste le refaire une fois, Philippe.
Tout simplement.
Peuvent-ils le faire, oui.
Liverpool a un trio offensif, peut marquer à chaque instant. C'est une équipe qui a une capacité de projection vers l'avant extraordinaire. Après, c'est pas l'équipe la plus stable, la plus équilibrée qu'on connaisse. Elle a des faiblesses. Elle peut gagner le match en un quart d'heure, elle peut le perdre dans un autre quart d'heure. C'est Klopp, c'est du Klopp. Il est dans l'ADN de Liverpool complètement, Klopp. Il correspond tellement bien. Mais évidemment, on est tous les amoureux de foot dont on fait évidemment partie sont un peu comme disait Étienne, on a tous envie aussi parce que le Real vient de gagner plein de fois. Alors c'est bien les records, gagner 3 fois de suite, tout ça, bon très bien, mais c'est quand même ce serait plus extraordinaire évidemment que Liverpool remporte cette finale, évidemment sur le plan du cœur, la raison dit peut-être Real, le cœur a envie de dire Liverpool.
Salah, Firmino, Mané, c'est simplement le trio le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions, hein. Ils en sont à 39 buts, l'équipe de Liverpool a marqué 46 buts cette saison, dont 6 en barrage, tout de même, et 22 buts de ces buts à l'extérieur, c'est vraiment une campagne exceptionnelle, là, ils vont se frotter présenté au maître.
Oui, exceptionnel et puis quand même un tout petit peu inattendu, parce que je crois pas qu'en début de saison on pouvait prévoir réellement donc que Liverpool soit en finale de Ligue des Champions. On pensait quand même plutôt à Manchester City qu'à Liverpool.
Mais quand Liverpool est inscrit dans une compétition, notamment de Cup et autres, on ne peut pas ne pas la mettre parmi les favorites. Autant Manchester City, on peut se dire, j'en sais rien.
Tu dis, ça c'est le genre de choses que tu dis à la veille de la finale, quoi.
Moi, je peux pas m'en douter. C'est ce que je dis dès le début. Bah. Je me rappelle très bien de la Coupe du Monde 2002 où tout le monde mettait à out le Brésil en disant, ah, le Brésil, ils ont été nuls en qualif, ils sont complètement hors dehors du coup, etc. Je dis, non, je suis désolé, avant une Coupe du Monde, le Brésil ne peut pas ne pas faire partie des favoris. Et c'est pareil de l'Italie, et c'est pareil de Liverpool.
Comparaison n'est pas raison, parce que si tu regardais aujourd'hui en début de saison l'effectif de Liverpool, évidemment avec le Brésil c'est beaucoup plus facile tous les 4 ans de dire qu'ils sont forcément parmi les favoris du mondial. Avant la Ligue des Champions, j'ai pas entendu grand monde qui disait que Liverpool était un des deux ou trois favoris. J'avais compris que c'était ça ta prévision.
Quand on regarde
l'effectif, ce qui est remarquable,
j'ai pas dit ça, mais si tu me dis Liverpool Manchester City avant la Ligue des Champions, moi je te dis que s'il y a plus de chances que Liverpool soit à l'arrivée que Manchester City,
surtout aujourd'hui, oui. Surtout à la veille de la finale, il y a plus de chances.
Et Philippe, quand Coutinho est parti, tu te dis aussi qu'ils étaient encore favoris. Bah, franchement, c'était imprévisible. Hein.
On passe notre temps à dire que c'est marrant, de ce point de vue-là,
le Stade de Reims, donc c'est en finale, donc tous les ans.
Le Stade de Reims ne participe pas, jusqu'à preuve du contraire.
Non, mais il y a eu l'éclosion aussi.
Vous négligez des trucs incroyables. Vous n'avez jamais vu un match européen à Liverpool?
On se réjouit. Mais bien sûr, on se réjouit du succès et des performances de Liverpool, parce qu'ils ont su aussi donc révéler des joueurs, parce que Mohamed Salah, évidemment, on ne le découvre pas. Mais on n'imaginait quand même pas que Mohamed Salah arrive à ce niveau-là. Et
10
aujourd'hui,
buts en Ligue des Champions, 32 en Première Ligue, il a battu tous les records.
Voilà. Et au niveau du jeu aujourd'hui, donc on a un club qui est aussi porté par un joueur, donc qui face au Real, peut-être, ça dépend aussi de ce qui se passe en Coupe du Monde, peut jouer donc la victoire sur le Ballon d'Or. Mais qui aurait pu pronostiquer ça aussi? C'est impossible. Incroyable.
Philippe, c'est comme si, donc ça fait 13 ans que Liverpool n'est pas en finale, c'est comme si tu dis, on aurait dû mettre Marseille en finale des Ligue Europa, parce que ça faisait 14 ans qu'ils n'étaient pas en finale, et Marseille, c'est un club quand même.
Non, mais Liverpool ne participe que rarement à la Ligue des Champions. Est-ce qu'en 2005.
En général, c'est pas un atout. Hein.
Non, c'est pas un atout du tout. Mais est-ce qu'en 2005, c'est exactement la même problématique. Tu prends la compétition au départ, tu dis pas une demi-seconde que Liverpool va gagner, mais pas une demi-seconde.
Non.
Bon, il n'empêche que quand tu es Liverpool, quand tu es Milan AC, quand tu es la Juve, quand tu es le Real, quand tu es tous ces clubs-là, t'as une chance de gagner.
Ça fait beaucoup, parce qu'il y a le Bayern, il y a le Barça aussi.
Ce sera la 8e finale de Ligue des Champions de Liverpool, qui a gagné 5 des 7 précédentes. Vous savez, du côté du Real Madrid, où on a gagné 12 Ligue des Champions, quelle est la dernière finale de Ligue des Champions perdue par le Real?
Des années 80.
Bon, ça devait être avec Zidane, alors.
Non, c'est celle contre Liverpool.
Ouais. En 81, 1-0, but d'Alan Kennedy. Bon, c'est juste pour rappeler, ça ne veut rien dire en soi, c'est juste le rappel des faits et de cette anecdote.
Ouais, parce que là, il y aura match, là.
Là, il y aura match. On est tous d'accord pour dire ça. Il va y avoir match.
Je serais très surpris qu'il y ait 4-0
à Mourinho contre Conte.
Ce serait très surprenant qu'il y ait 4-0 pour le Real au bout de 4 minutes.
C'est toujours surprenant qu'il y ait 4-0 sur une finale de Coupe d'Europe, de toute façon.
L'année dernière, il y avait partout.
Ou sur une demi-finale de Coupe du Monde.
L'année dernière, il y a eu match jusqu'à la pause, Étienne.
Je pense quand même que le Real a un avantage. L'expérience de ses joueurs, je veux dire, qui savent disputer ces matchs-là, l'effectif, de toute façon, du Real, la capacité qu'ils ont eu à se renouveler sur des détails, mais donc aujourd'hui il y a plusieurs jeunes joueurs qui ont intégré donc le 11 de départ du Real, avec des vrais choix qui ont été faits par Zidane. Cette équipe du Real, donc avec Ramos, Ronaldo, enfin tous ceux qu'on connaît, et les jeunes Asensio, Isco, qui se sont imposés dans l'équipe, franchement moi je leur donne un petit avantage quand même.
L'année dernière il y a eu match jusqu'à la pause,
c'est la raison,
contre la Juve. Après il n'y a plus eu match en deuxième période. Donc
contre l'Atlético Madrid, les deux fois, il y a eu match jusqu'à la fin.
Tout à fait. Mais bon, l'Atlético, c'était vraiment deux oppositions de style, parce que l'Atlético refusait un petit peu de jouer. Et c'est une des équipes qui
la Liverpool va jouer.
Bah, il me semble que Liverpool peut pas se rogner. Ils vont pas s'inventer un jeu défensif.
Salah, Firmino, Mané,
samedi soir. Et puis les qualités de l'équipe, c'est devant. Donc autant profiter, peut-être de les aspirer un peu.
Il faut avoir le ballon quand même. Et donc le challenge pour Liverpool sera d'avoir le ballon quand même face au milieu du Real.
La possession, tu peux la laisser au Real.
Ah oui, ça, tu peux la laisser.
Ils n'aiment pas mais... ça non plus, donc ça va être bien.
Ils peuvent s'en accommoder.
Ils sont à 60% quand même.
Les deux peuvent tout faire. C'est l'avantage d'ailleurs de ces deux équipes, c'est qu'elles peuvent offrir une finale très spectaculaire et une finale assez calculatrice aussi, mais Liverpool n'a pas la solidité nécessaire, je pense.
Je vois plutôt Liverpool contre le Real. En termes de tactique choisie par club.
Le Real aime bien aussi. Hein.
Le Real a tous les styles. Le Real
ils peuvent tout faire. C'est une équipe italienne.
Un entraîneur italien. Je vois pas Liverpool prendre le ballon et essayer de jouer à la possession.
Ça semble pas être un compliment dans la bouche de Philippe Doucet quand il dit un entraîneur italien.
Alors, au contraire, je pense que les entraîneurs italiens, si tu peux me trouver une école meilleure d'entraîneurs dans le monde entier, j'en connais pas. Hein. Ce sont les meilleurs entraîneurs du monde, donc je vois pas pourquoi ce serait péjoratif. Mais
en tout cas, on parlait tout à l'heure.
Zidane s'en est beaucoup inspiré et je pense qu'il a beaucoup gagné.
Il a les trois influences. Il est français, espagnol et italien.
Oui, mais l'entraîneur que je vois me semble beaucoup inspiré par l'Italie et dans la capacité du Real à savoir tout jouer comme style, à savoir varier à l'intérieur d'un match, à savoir jouer la carotte quand il faut, jouer l'offensive quand il faut, à patienter, attendre, jouer en fonction du score, faire les changements qu'il faut en fonction du score, etc.
C'est très italien. Parfois, c'est un peu.
Je trouve très italien.
Et alors, sur le côté espagnol, c'est d'accepter le football offensif, quand même. Parce que l'entraîneur italien, parfois, se contente de gagner 1-0.
Non, mais le calcio a changé.
C'est aussi un match Klopp Zidane. Qui est intéressant à voir, non? C'est aussi un match Klopp Zidane.
Oui, c'est déjà un match Zidane, parce qu'on évoquait tout à l'heure Patrick Vieira, dont on se posait la question de savoir est-ce qu'il avait la formation aujourd'hui suffisante pour prendre une équipe. Zidane, il a pris directement le Real Madrid quand même. Il a pris directement le Real Madrid et il en passe de gagner pour la troisième fois de suite la Ligue des Champions.
Il avait la réserve avant quand même. Oui, il avait un peu chauffé la machine.
Et il les a pris en janvier parce que Rafa Benitez, tout se boucle.
Mais je vous dis, on l'a construit. Hein,
parce que Rafa Benitez était dans une situation d'échec telle Unai Emery, quoi, pas capable de gérer les stars, notamment Cristiano Ronaldo. Donc il est arrivé en plus au milieu d'une saison. Alors certes, le costume était taillé pour lui, ça on le sait après. Mais quand même, arriver en milieu de saison, c'est toujours un peu compliqué.
Vous disiez tout à l'heure, les défenses risquent de souffrir. On rappelle que celle de Liverpool, qui a disputé 12 matchs dans cette compétition, a réussi à garder sa cage inviolée 6 fois. Ça n'est pas rien, un match sur deux.
C'est là où c'est un miracle, parce que pour moi, Lovren et Van Dijk, c'est quand même pas deux grands défenseurs. Et Karius n'est pas forcément un très très bon gardien. Donc c'est là où je suis un peu surpris, c'est que les trois de la base défensive, les deux défenseurs axiaux et le gardien, ça me paraît pas du niveau d'une finale de Ligue des Champions. Donc c'est ça c'est là où j'ai des doutes, quoi. Alors que Ramos, Varane et Navas, même si on a des doutes sur Navas, on a des doutes parfois sur Varane, ça me paraît quand même légèrement plus solide.
Est-ce que le fait que ce soit le dernier match de la saison en club, que tous ceux qui sont sur le terrain ou presque vont rejoindre des sélections et disputer la Coupe du Monde, ça peut jouer? Elle est tard, cette finale.
Pas pour le Real, en tout cas, parce que le Real, ils sont tellement habitués à ça, ces joueurs-là. Donc, aller gagner une Ligue des Champions, enchaîner derrière par une grande compétition, un Euro, une Coupe du Monde.
Il n'y aura pas la crainte de se blesser.
Non. L'année dernière, c'était en juin, la finale, hein.
Oui, peut-être, oui. Mais il n'y avait pas de Coupe du Monde. Mais elle est tard par rapport à l'échéance Coupe du Monde derrière.
Bah, justement, il vaut mieux être, ils vont enchaîner tout de suite après avec une autre compétition, la plupart des joueurs. Donc, non, c'est plutôt bien, psychologiquement, se dire que ça continue, t'arrives porté par un élan du vainqueur, et puis même un peu le finaliste, parce que c'est quand même pas mal.
Non, mais il faut pas cacher les choses. Je veux dire, la finale de la Ligue des Champions, c'est le plus grand match du monde. Au sens football. Hein.
C'est pour ça qu'on est impatient.
L'année où il y a la Coupe du Monde, je dirais quand même pas ça.
En termes d'importance, en termes d'émotion et autres, le summum, c'est la Coupe du Monde. Mais en termes de qualité de football, c'est le top. Et vous êtes porté par la Ligue des Champions. C'est la plus belle épreuve du monde. La plus grande épreuve du monde, c'est le top. Vous pouvez pas imaginer plus haut. Donc imaginez que des joueurs aient le frein à main sur ce match-là, pas une demi-seconde.
On sera tous devant notre poste ou l'un d'entre nous, pas moi en tout cas, il sera. Je regarde Philippe.
Non, pas de Kiev. Non.
Bon, donc on
j'étais
sera
à Lyon,
ça
m'a suffi.
J'étais à Lyon aussi, mais je serai pas à Kiev.
Bon, on sera tous devant la télé quelque part, pas forcément ensemble, mais tous devant la télé. C'est un match qu'on ne rate pas.
Ah, on réserve son samedi.
Oui. Bien sûr, c'est
incontournable. De toute façon, t'es jamais invité, toi, le samedi, donc t'aimes bien regarder les matchs à la télé.
Moi, je vous invite à revenir quand vous voudrez, messieurs, ça a été un plaisir. On rappelle que demain, c'est le Café des Sports. On rappelle aussi aux auditeurs, calmez-vous, elle revient lundi. Hein, on ne va pas le répéter 36 fois. On l'a attachée, on lui a donné à manger, il y a ses chats autour d'elle, tout va bien. Elle se repose, parce que pendant la Coupe du Monde, vous l'aurez deux fois par jour.
Il y a Zidane et Ronaldo, ici, voilà, on a notre présentatrice quand même.
Merci à Pierre-Olivier Guérin et à Guillaume Ploquet. On se retrouve demain, bien sûr, pour le Café des Sports avec les habitués.